La musique.
Caravanana maximum.
Ta gueule,
ta gueule. Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour d'Alaga.
Vive mon panthéon.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Chambéry, radio-libertaire.com. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Noémie Boutin. Bonjour Noémie.
Bonjour Christophe.
Donc tu es violoncelliste et on t'avait reçu le 27 mars 2020 dans les Oreilles Libres. Tu étais venu nous parler de ton travail autour de Benjamin Britten, dont on vient d'écouter la suite pour violoncelle opus 80, la Chaconne, c'est ça ? Et donc nous sommes repartis de là où on s'était arrêté il y a 5 ans. 5 ans déjà, dis donc. Voilà. Alors, on va parler de ton disque Ricoche, qui sort là dans...
quelques jours.
Dans quelques jours, oui, c'est ça. Mais revenons un petit peu sur ton premier disque qui date de 2017. Il était autour de Britten, donc. On avait beaucoup parlé il y a 5 ans de Benjamin Britten. Et tu nous disais organiser régulièrement des Britten parties. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
Alors... puisqu'on parle de 2020, cette période sombre, même si aujourd'hui c'est pas beaucoup plus lumineux, mais pour d'autres raisons, c'est une époque où il y a eu toutes ces annulations là de dates les unes après les autres, ouais. Dont deux Britten parties, c'était terrible. Ah. Alors les Britten parties, effectivement, c'est né de notre enthousiasme fou de l'époque, avec mes partenaires de la compagnie, donc ma compagnie qui est basée à Lyon, qui s'appelle Frotte et Frappé. Et quand le disque est sorti, on a rêvé d'une sortie de disque d'envergure et très festive. Et on avait, en lien avec la marbrerie à l'époque, qui n'était pas aussi... connu, coté qu'aujourd'hui, avec l'équipe de la marbrerie, on était tombé d'accord pour investir la marbrerie une journée entière autour de ce disque et donc autour de la musique anglaise, autour de l'Angleterre. Il y avait de la musique scottish, il y avait évidemment du Britten, il y avait du Shakespeare, ça se finissait par un bal. C'était vraiment extrêmement joyeux. Et il y avait Chloé Moglia qui faisait de la suspension. Enfin bon, c'était vraiment magnifique.
Ouais, super.
Ouais.
J'aime bien, ouais.
Et puis, ça a tapé dans l'œil de certains programmateurs, programmatrices, et qui l'ont refait dans leur théâtre quelques fois. Donc ça, c'était génial. Et puis, l'année du Covid, là, on a dû en annuler deux, ce qui était terrible. Une à Nanterre, une à Lorient.
Oui.
C'est quand même toujours pas loin d'un an d'organisation, hein, donc parce qu'il y a la venue d'amateurs, il y a beaucoup de coordination, donc c'était très dur. Et ça nous a foutu un coup. De toute façon, ce Covid, il a foutu un coup sur ces projets-là, qu'on fait comme ça une fois, qui nécessite une énergie énorme. Ça, c'est des choses qui... Je me rends compte que le Covid a bien sabré cette énergie-là. On l'a plus difficilement aujourd'hui.
Ah, c'est ça. Vous l'avez pas retrouvé ?
Pas vraiment. On en a fait une petite, une Britten Melodies au Théâtre Doulin, qui était très très chouette, avec Alvise Sinivia et Juliette Fraser et un chœur d'enfants. C'était très très beau. Et puis voilà, depuis ça n'est plus arrivé. Mais avec le disque Ricoche, je veux retrouver cette énergie-là.
Ah.
Et on prépare pour l'année prochaine une Ricoche Melodies à Malraux, à Chambéry, à la scène nationale de Chambéry. Donc peut-être que les années à venir vont redonner de la Ricoche ici et là.
Alors, tu es en train de me dire que... Parce que, tu sais, il y a 5 ans, on t'avait reçu... C'était donc en mars, effectivement, en mars 2020. Et on t'avait reçu pour annoncer la Britten Party de Nanterre.
Eh ben voilà.
Elle n'a pas eu lieu.
Ben non.
Ah la vache. D'accord. Ouais. Ah oui, c'est ça. Il commémore les 5 ans, et donc c'était en plein dedans.
Mars 2020, c'est... Je crois même que le jour... où ils ont annoncé la fermeture des théâtres, si je ne me trompe pas, c'était le 13 mars. Ouais. Je m'en souviens puisque j'étais dans un théâtre et que je devais jouer le soir et que ça a été annulé.
Ah ben... Bon, alors, on a écouté donc, un extrait de Britten. Est-ce que ça fait partie du disque, du premier disque?
Cette Chaconne,
ouais.
Oui, bien sûr.
D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce disque?
Trois suites de Britten. Trois suites de Britten, ouais.
Alors peut-être, moi, ça m'avait beaucoup intéressé à l'époque. J'aimerais bien que tu nous, avant de parler de l'actualité, que tu nous résumes tout ce que tu nous avais dit. C'était assez, c'était assez conséquent. Mais peut-être en quelques mots, nous parler de ton vif intérêt pour ce compositeur britannique, sa musique et, si je me souviens bien, sa personnalité également.
Oui, c'est vrai que, quand on plonge dans la fabrication d'un disque, enfin moi en tout cas, je me demande mille fois pourquoi je le fais et pourquoi ce répertoire et qu'est-ce que ça va raconter aux gens et quelque part ça fait partie de la construction d'une identité. Donc effectivement, quand j'ai plongé dans Britten, quoi. Et j'avais une histoire d'amour avec ce compositeur et sa musique. Pour moi, c'était vraiment le pivot, la pièce pivot entre le passé et l'avenir.
Ouais.
Et du coup, pour moi, c'était génial à cette période-là parce que j'ai toujours voulu garder un pied dans le passé et un pied dans l'histoire d'aujourd'hui. Je joue toujours du répertoire de compositeurs morts. C'est très important pour moi, c'est dans mon ADN, c'est comme ça que j'ai appris le violoncelle et j'y tiens beaucoup. Mais l'avenir me titille et m'appelle toujours. Et donc, je trouve des solutions pour être dans les deux. Et du coup, Britten, alors là, c'était fantastique parce que vraiment, il ouvre complètement vers l'avenir. Alors, je sais qu'il a été, beaucoup critiqué pour son côté passéiste. Mais moi, je trouve plutôt que vraiment, c'est une plume qui est complètement singulière, qui effectivement se tourne beaucoup vers le passé, mais en même temps raconte quelque chose de narratif, de théâtral, d'engagé, d'humain, qui pour moi sort complètement de la catégorie de est-ce qu'il est avant-gardiste ou pas, ou passéiste. En fait, c'est Britten, voilà. Et puis après, les Anglais, c'est quand même particulier leur histoire, on peut pas. Voilà, ils ont une identité musicale. Qui est la leur, qui est très tournée vers les publics, qui est très tournée vers le populaire, vers l'amateurisme. Et tout ce que ça brasse, pour moi, c'était vraiment passionnant.
Peut-être on peut resituer le Britten, parce que c'est un compositeur du XXe siècle. Complètement.
C'est suite, je crois qu'il les a terminées dans les années, pas loin des années 70. Donc on peut imaginer à quel point les musiques à cette époque-là étaient beaucoup plus expérimentales. C'est marrant, par exemple, il y a une pièce très fameuse qui s'appelle Pression de Helmut Lahrenmann, qui est un grand, grand compositeur allemand.
Ouais.
J'espère ne pas me tromper. Voilà, ça fait partie des pièces mythiques, quoi, de notre répertoire d'aujourd'hui. Et alors, c'est à peu près aux mêmes années, quoi.
Ah oui.
Donc, Lahrenmann, c'est que de la musique bruitiste où on va chercher des craquements, des frottements et tout.
Ouais.
Et puis, alors qu'avec Britten, on est encore dans du grand romantisme, quoi.
Ah
c'est,
oui.
C'est sûr que il y a un fossé.
Ah, j'aurais pas dit 1970, tu vois.
J'aurais situé
encore plutôt dans les années 50.
La dernière suite, on n'est pas loin des années 70. Ouais.
Alors, moi, si je me souviens bien, ce qui m'avait touché dans le fait, parce que du coup, je m'étais penché un petit peu sur Britten, j'avais appris qu'il avait été objecteur de conscience. Et ça m'avait beaucoup touché. Et par les temps qui courent, ça fait du bien d'entendre ça.
Ah oui.
En ce moment, là, je vais dire que. Alors, continue. Est-ce que tu continues à travailler sur les œuvres de Britten?
Oui. Alors là, avec le disque Ricoche, vu que c'est à nouveau un solo, je vais quand même faire de la place pour ce solo et diffuser ce solo soit tel qu'il est dans le disque, soit mixé avec d'autres choses et peut-être Britten. Mais en tout cas, les années précédentes, bien sûr que je les ai jouées, ces suites, soit dans des concerts Britten, soit dans des concerts back Britten. Voilà, c'est... Et puis, j'ai aussi beaucoup joué la sonate de Britten pour violoncelle et piano, qui est merveilleuse.
Oui. Alors, j'encourage encore une fois les auditeurs à écouter l'émission du 27 mars 2020, qui se figure sur notre site. Alors, notre site n'est plus actif. On en parlait en antenne avec Noémie. Mais il y a toutes ces émissions jusqu'en 2022 qu'on peut réécouter, dont celle avec toi du 27 mars. Donc, on peut se repérer par rapport aux dates. On peut écouter l'émission, mais tout de même, on ne sera pas exempt de rappeler brièvement quelle fut ta formation classique, j'imagine.
Oui, ah bah oui, des plus classiques. J'ai fait les conservatoires voilà, jusqu'au CNSM de Paris. Je suis rentrée très jeune, donc j'en suis sortie très jeune. Et puis ensuite, après le CNSM de Paris, j'ai vu quelques profs... sur des périodes plus courtes, comme Jean-Guy Enqueras ou Irun Rolling à Bruxelles. Mais voilà, c'était peut-être sur un an, ouais. Ou voilà, pour continuer à peaufiner des choses. Et vu l'âge que j'avais, j'aurais pu peaufiner encore longtemps. Mmh. Mais en fait, j'ai pas fait d'autres cycles d'études. Donc, vers 20 ans, 20 ans, c'était terminé et je suis partie dans la vie professionnelle.
Eh ben super. très bien. Et alors, par quel biais es-tu sortie d'une carrière d'interprète classique, vraiment classique, pour dériver vers les musiques de création qui nous intéressent dans notre émission?
En fait, pendant toute cette période-là, de mes 15 ans à 20 ans, j'avais, pour ainsi dire, une autre formation. C'était celle que je traversais avec mon entourage et ma famille de musicale, ouais. Mon frère Julien, Julien Boutin, qui était dans le Quatuor Bella pendant jusqu'à il y a 2 ans, qui à ses 23 ans a créé un festival dans l'avant-pays savoyard, donc un festival rural, ouais. Pendant des années et des années, on a exploré des musiques dans tous les sens, à toutes les heures du jour et de la nuit, dans tous les paysages possibles et imaginables. Et aussi, très tôt, il avait cet appétit de croiser les disciplines. Donc, j'ai très vite assisté à des spectacles qui me subjuguaient, quoi. C'est là que j'ai rencontré Jörg Müller, c'est là que... J'ai vu Pierre Meunier, Bonaventure Gacon, Élise Caron, Evrisser, enfin, et donc c'était très très formateur.
Ouais, ouais.
Et donc pendant mes études très académiques, j'avais quand même cette vision-là des choses qui m'a vraiment construite. Et en fait, quand j'ai fini mes fameuses études vers 20 ans. Moi, je suis partie là-dedans, beaucoup plus que vers la carrière de soliste qui était prévue, entre guillemets. À 20 ans, j'ai rencontré Fantasio, ça a été une autre école.
C'est sûr.
Voilà.
Alors, on va l'écouter. Explique-nous ta rencontre et ta collaboration avec Albert Marker.
Oui, c'était à l'époque, c'était en... je crois que c'était... Oh là là. Bon, bref, c'est vieux. Le Quatuor Bella, justement, qui n'était pas tout à fait encore aussi ancré dans leur carrière que peu de temps après, d'ailleurs, avait ce projet d'enregistrer avec Albert un disque qui s'appelait Travaux pratiques. Mmh. Et puis le violoncelliste n'était pas très disponible à l'époque, Luc de Dreuil. Donc, naturellement, ils m'ont demandé de le remplacer. Et puis, ça a été une aventure fabuleuse. Donc, de résidence, montage des partitions, etc. Et puis, enregistrement, puis tournée de concert. Donc ça, c'était Travaux pratiques. C'était son disque Travaux pratiques. Et voilà, c'était incroyable de rencontrer Albert, de rencontrer ses frères, sa musique. Et puis, aujourd'hui, très très bel événement, c'est qu'il sort à nouveau un disque qui s'appelle V'là autre chose et qui va s'enregistrer dans les mois à venir. Et puis j'ai la chance d'avoir été sollicitée pour le faire, pour être violoncelliste dans cette aventure qui va être, j'ai l'impression, grandiose.
Super. On écoute le Paris Beurre de Albert Marker, extrait de Travaux pratiques. Tu parlais du disque de Albert Marker qui... Quel est le titre ?
V'là autre chose.
V'là autre chose. Je crois, il me semble avoir vu qu'il y avait une souscription.
Oui, tout à fait.
Sur Eloasso.
Oui, tu fais bien d'en parler.
Bah oui.
Comment la communiquer ? En tout cas sur Facebook, ce réseau social.
Mais non, alors tu sais, moi je l'ai trouvé par le biais tout simplement du site de Albert Marker.
Ah bah très bien, bah voilà.
Ah ouais.
Du coup, je le recommande à tout le monde, effectivement, d'aller sur le site et puis de filer un coup de main. Effectivement, je vais pas me permettre de dévoiler le contenu du disque maintenant.
Mince.
J'ai pas l'autorisation, donc je vais pas le faire. Oh. Mais il va être, ce que je peux dire, c'est qu'il va être surprenant et qu'il est vraiment, comme je le disais, grandiose. Donc je pense que les coups de main sont bienvenus.
Ah oui, coups de main financiers, oui.
Ouais.
Alors moi, je peux le dire parce que il l'écrit sur son site. Il y a une trentaine de musiciens.
Voilà.
C'est ça, hein, ouais.
Voilà.
Musiciens, musiciennes.
Ouais.
Donc voilà, il faut un peu de sous.
Ouais, il faut un peu de sous.
Voilà. Donc Eloasso, et puis on trouve ça sur le site de Albert Marker. Oui, mais tout à fait autre chose. Alors, c'est passé. C'était assez récemment, d'ailleurs. Mais quelques mots sur les ateliers du violoncelle.
Oui.
Ça vient juste de se produire à l'atelier du plateau, je crois.
Oui, oui, bah là, pour la première fois. Alors, en fait, l'atelier du plateau, comme souvent, a été une terre d'accueil géniale pour les ateliers du violoncelle. De toute façon, c'est Vincent Courtois qui est à l'initiative des ateliers du violoncelle. Et puis, lui, il a évidemment une forte histoire avec l'atelier du plateau. Donc, tout ça était très en lien avec Mathieu Malgrange. Et puis, il y a eu une deuxième terre d'accueil qui s'est ouverte pour nous, c'est à l'Opéra Underground à Lyon. Et donc là, pour la première fois cette année, on a enchaîné les deux semaines. Donc une semaine à l'atelier du plateau, puis une semaine à l'Opéra Underground. Voilà, moi, en quelques mots, je dois dire que c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie, cette histoire des ateliers du violoncelle. Quand Vincent m'a appelé, moi, je ne le connaissais pas. Enfin, de nom, évidemment, mais pas plus que ça. Mmh. Je crois même pas que je l'avais déjà vu en concert. Honte à moi. Et il m'a appelé justement à la période du Covid, comme quoi il y a eu des choses positives quand même. Et puis pour me dire, écoute, voilà, j'aimerais vraiment créer du lien avec les jeunes violoncellistes. Et puis j'aimerais surtout leur proposer les choses que j'ai pas vécues moi, c'est-à-dire leur proposer un brassage de musique, un brassage de rencontres, de discussions, des masterclass, oui, mais pas avec le côté je suis le grand maître qui fait un show TV devant mes fans. Non, je veux vraiment qu'on discute quoi de ce que c'est que d'être violoncelliste aujourd'hui. Mmh. Voilà, alors du coup, j'étais ravie. Et puis, le troisième larron, c'est Éric Maria Couturier, qui est quand même un des plus aventuriers violoncellistes qu'on a en France. C'est un des solistes de l'intercontemporain et par ailleurs il sillonne la France et le monde avec son violoncelle, ses expérimentations. C'est quelqu'un qui est tout le temps en quête d'aventure. Donc tous les trois, on organise chaque année ces ateliers du violoncelle. Et donc c'est des semaines où il y a des masterclass, des concerts tous les soirs où il y a toujours évidemment un violoncelliste. Mmh. Ça peut être de la musique manouche, ça peut être de la musique contemporaine, ça peut être de l'impro, ça peut être de la musique baroque. Enfin, vraiment, c'est très éclectique. Et puis, il y a des commandes faites aux stagiaires de musique, de partition. Il y a des commandes faites aux parrains ou marraines de l'édition. Et puis, il y a des commandes d'archets à des jeunes archetiers, archetières. Ouais. Et comme ça, on a un petit stock d'archets qu'on peut prêter aux stagiaires quand ils ont un événement important, un concours, quelque chose. Voilà, donc c'est quand même vraiment très riche et c'est vraiment très beau.
Ça aura lieu donc l'année prochaine.
Eh bien, si tout va bien, alors hein, en ce moment, chaque jour suffit sa peine. Et puis, on n'a pas beaucoup d'argent pour cet événement. Donc, Vincent porte beaucoup avec sa compagnie l'imprévu. Ah oui. Et puis, avec l'aide de Mathieu Malgrange et puis maintenant de Richard Robert à Lyon. Mais voilà, c'est quand même des semaines qu'il faut assumer financièrement. Donc, je croise les doigts, je touche du bois, tout ça.
D'accord. Alors, on va parler de ton disque Ricoche qui va sortir incessamment sous peu. Mais avant, on va écouter un extrait. Les filles de l'Orient. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler de cette compositrice Oksana Omelchuk?
Ouais. Alors, je l'ai rencontrée quand avec la compagnie Frotter Frapper, donc ma compagnie, on a fabriqué un spectacle qui s'appelle La Rose des Vents, qui marie la cuisine et la musique de création. Donc on se retrouve avec le chef cuistot Emmanuel Perraudin autour d'une marmite de bouillabaisse. Et cette marmite nous permet de raconter des histoires et aussi de transmettre des sons et des musiques et des partitions. Et donc, j'ai commandé des pièces Et je, comme à chaque nouveau projet, bah je vais sur les internets et j'écoute des musiques dans tous les sens que je récupère ici et là. À chaque fois, c'est des périodes. Je rentre dans la matrice de tout ce que j'arrive à récolter de musique d'aujourd'hui et notamment de musique de femmes, ce qui est un peu plus difficile que de récolter les musiques d'hommes. Et donc, à un moment, je suis tombée sur Oksana et alors là, j'ai adoré quoi. Enfin, ce que je trouvais sur Internet, c'était inventif, c'était plein d'humour. Je me suis dit, bah alors là, vraiment, je veux rencontrer cette personne. Donc, elle est biélorusse, mais elle habite à Cologne.
Ah, okay.
Et effectivement, ça a été une très, très belle rencontre. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'électronique, mais et beaucoup avec les citations, les références. Dans ce qu'elle a écrit pour La Rose des Vents, il y a toujours des citations. À des artistes ou à des époques et elle se balade comme ça dans l'imaginaire et c'est vraiment très très chouette.
Alors tu as parlé d'électronique, si il me semblait bien ma question, j'allais te poser, il me semble qu'on va entendre autre chose que du violoncelle.
Oui, c'est pas moi qui fait tout ça.
Donc c'est de l'électronique.
Ouais.
Les films.
Dans cette partition électronique, là, des filles du Lorient, vous allez pouvoir entendre un chant de marin.
Ah, super.
Ouais, elle est allée chercher un chant de marin breton, quoi.
On écoute Les filles de Lorient, composées par Oksana Omelchouk, interprétées par Noémie Boutin.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec notre invitée aujourd'hui, la violoncelliste Noémie Boutin. Alors, Noémie, je vais te la poser de but en blanc cette question. Je me permets de le faire parce que toi-même, dans ton texte de présentation du disque Ricoche, tu la poses comme ça. Noémie, pourquoi faire un disque?
Bon, ça tombe bien maintenant, après quelques années de tergiversation, je suis convaincue. Heureusement, parce qu'il sort dans quelques jours. Donc, pourquoi faire un disque? Moi, j'ai vraiment l'impression, comme je le disais un petit peu en début d'émission, que ça permet de poser quelque chose. En psychanalyse, on dirait poser des mots sur une période ou sur un traumatisme, ou autre. Là, c'est graver une interprétation, et du coup c'est un petit peu comme une balise, quoi, dans un parcours. Et le disque Britain, pour moi, c'était une première balise, et puis là c'est la deuxième. Je disais tout à l'heure que Britain, pour moi, c'était la pièce pivot entre le passé et l'avenir, et puis là on est vraiment sur la musique d'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu partager, mon amour de cette musique-là. Ouais. Et Dieu sait que je sais pas pourquoi je parle de Dieu, mais que je me suis pris la tête sur le pourquoi, le comment, à quoi ça va servir. Et puis en plus, c'est de la musique contemporaine, ça va intéresser personne. Et puis bon, c'est coûteux, hein, de faire un disque. Ouais. Hein, pour la compagnie, pour le label, pour les partenaires, c'est un vrai engagement. Mais maintenant qu'il est prêt, que la couverture, que la photo est faite, que le fil conducteur a été trouvé, que tout ça, je me dis oui, ça y est, je comprends. Je comprends pourquoi.
Alors, est-ce que pour toi, l'enregistrement d'un répertoire est une manière d'en finir avec lui, ou au contraire, de tourner la page, ou au contraire, de l'explorer, enfin...
Disons que ces pièces, je les joue depuis des années, donc voilà. Oui, à un moment, il va falloir tourner la page. Mais non, finalement, maintenant que j'assume un disque, il va falloir que je le joue. Voilà, donc, les prochaines dates approchent, là, de sortie de disque, il va falloir que je joue ce disque, et ça ne va pas être facile. Et non, j'ai l'impression qu'au contraire, je vais continuer à les travailler, à les explorer. Et puis que l'enregistrement amène un tout autre travail que ce que j'ai fait ces dernières années. Donc, d'un coup, c'est une autre porte qui s'ouvre aussi.
Ah justement, alors tu me tends la perche. Je voulais bien t'entendre là-dessus. On se doute que tu travailles énormément ton instrument et ses pièces en particulier. Quelle différence y a-t-il, s'il y en a, entre travailler les pièces pour un concert et les travailler pour l'enregistrement d'un disque?
Je ne sais pas si le travail en amont a beaucoup changé de mon côté. Par contre, c'est les 3 jours d'enregistrement. Donc, je tiens à le dire, donc j'ai enregistré avec Pascal Perrault qui a tout enregistré, et Juliette Fraser, une chanteuse anglaise qui a fait la direction artistique. Et donc, les 3 jours qu'on a passés ensemble dans le studio Alice, là, dans les Alpes du Sud, Ça change complètement la donne. C'est-à-dire que le travail qu'on a fait ensemble, c'est pas grand-chose, 3 jours sur une vie, hein, mais le travail qu'on a fait ensemble pendant ces 3 jours, lui, ce travail-là, il transforme le processus. Parce que, déjà, j'ai des oreilles avec moi qui m'écoutent et qui me reprennent et qui me donnent leur avis pendant toute la journée avec une concentration extrême. Donc, d'un coup, il y a beaucoup d'informations ingurgitées. Et puis, il y a un travail de précision, évidemment, et de choix, tout à coup, qui devient décisif. Et ça, ça marque les choses.
Est-ce que tu peux préciser ça là? Tu parles de travail de précision et de choix. Tu parles de quoi exactement?
C'est-à-dire que, quand on fait une prise, évidemment, j'assume qu'il y a du montage dans ce disque. Hein, il n'y a pas de prise entière. Même si on essaye, bien sûr, qu'il y ait des longs souffles, mais il y a quand même du montage. Et du coup, il y a un moment, il faut décider. On ne va pas passer 3 jours sur un papillon de Kaya Sarriao. Donc, il y a, je ne sais plus, dans le disque, 6 pièces, je crois, ou 7. Il faut respecter un timing.
Ah, oui, oui.
Donc, il y a un moment, il faut décider. Est-ce que cette partition, on veut qu'elle soit tendre? Est-ce qu'on veut qu'elle soit agressive? Est-ce qu'on veut qu'elle soit transparente? Okay. Est-ce qu'on veut qu'elle soit plus rapide, moins rapide? Il faut décider, quoi. Et on n'a pas beaucoup de temps pour décider. Mmh. Et d'un coup, ça se précise et c'est comme ça.
Ah oui. Alors moi, je pensais que tu... C'est pour ça que je t'ai demandé de préciser. Je pensais que tu parlais également du travail de prise de son, en fait, de la position des micros qui doit effectivement changer tout.
Oui, fait. Mais ça, c'est le travail qu'on fait au tout début, puis après, ça bouge plus.
Ah, donc, d'accord. D'accord.
Voilà. Une fois que l'identité, une fois que l'image sonore, elle est décidée, ça prend un certain temps, mais après, ça bouge plus.
D'accord. Est-ce qu'il y a une appréhension particulière à enregistrer un disque? Je sais que je connais où j'ai entendu parler de musiciens qui n'ont aucun problème avec la scène, mais qui détestent l'enregistrement.
Moi, j'ai été très, très stressée, vraiment. J'ai été très stressée avant. Par contre, j'ai passé un moment très agréable pendant.
Ouais.
Et j'ai été très stressée après.
Pourquoi après?
Parce que après, on se dit que on va pas pouvoir faire machine arrière, que c'est fait.
Oui, oui.
Et après, c'est les allers-retours avec Pascal Perrault sur les prises, le choix des prises, etc. Et c'est assez angoissant de se dire c'est ça quoi. C'est ça que les gens vont entendre. Je peux plus reprendre quoi.
Ouais. Alors peut-être il faut que tu nous dises quelle est la matière musicale qui constitue ce disque. Quels sont les compositeurs? Tu as parlé de 7 pièces.
J'ai pas encore le disque sous les yeux, donc du coup peut-être je me trompe. Il y a une pièce de Frédéric Aurier, il y a une pièce de Frédéric Patard, il y a une pièce de Misato Mochizuki, il y a la pièce d'Oksana Omelchouk qu'on a entendue, il y a les papillons de Kaya Sarriao,
ouais.
Et il y a une pièce assez singulière de Jean-François Vrault qui, elle, fait le lien entre toutes les pièces. C'est-à-dire que dans le disque, on l'entend entre chaque pièce, parce que c'est une sorte de pièce cadre qui raconte une histoire et qui fait le lien entre toutes ces pièces.
D'accord.
Voilà.
Ok. Pourquoi ce nom, Ricoche?
La pièce de Jean-François Vrault, on a beaucoup travaillé ensemble, donc je l'ai sollicité vraiment pour ce disque, c'est-à-dire que je voulais vraiment que ce disque raconte une histoire et je voulais vraiment qu'il y ait un lien entre toutes ces pièces. Et donc j'ai demandé à Jean-François de réfléchir à ça. Et donc est apparu pour lui le personnage de Echo, une nymphe, donc qui a été privée de pouvoir parler la première, qui est condamnée à ne pas pouvoir parler la première, juste répéter ce qu'elle entend.
Mmh.
Et donc, Echo, c'est un personnage qui résonne, hein, comme son nom l'indique. Et donc, Jean-François a travaillé là-dessus. Et donc, avec une luthière, Apolline Catalan, ils ont confectionné des sourdines ressorts qui permettent au violoncelle d'avoir une réverbération à lui, bien à lui, ouais. qui fait que quand je joue avec ces sourdines ressorts, j'ai ma réverbération, j'ai mon espace d'écho. Et donc, pour moi, Ricoche, c'était, ça parlait de ça, en fait, ça parlait de toute cette résonance qui ricoche et de toutes ces pièces qui ricochent les unes avec les autres.
Mmh. Je vous propose qu'on en écoute « J'entends que t'entends
», c'est ça.
Composé par Jean-François Vraud, interprété par Noémie Boutin et extrait du disque Ricoche.
Elle, c'est Écho. Une nymphe des bois et des sources. Lui, c'est Narcisse. Fils du fleuve Céphise et de la nymphe Lyriope. Les hommes, les femmes, les nymphes le désirent. Elle aussi, elle le désire. Mais un sort fait qu'elle ne peut jamais parler la première. Elle ne peut que répéter les derniers mots de ce qu'elle entend. C'est Héra, la femme de Zeus, qui l'a condamnée à cela. Un jour, il marche dans la campagne isolée. Elle le voit, elle le suit, elle s'échauffe du feu d'amour. Il la sent toute proche, mais il ne la voit pas. Lui, y a-t-il quelqu'un ici ? Ici, lui, qui est là? Elle, là, lui, réunissons-nous? Elle, unissons-nous, mais elle ne peut aller vers lui. Elle ne peut rien commencer. Elle ne peut que répéter ce qu'elle entend. Alors il se lasse. Il part. Il marche. Il la laisse. Et de nouveau, les hommes, les femmes, les nymphes le désirent. Mais lui, il n'aime personne. Tout à sa beauté insolente. En voyant cela, Némésis, déesse de la colère, adresse aux dieux une prière. Que celui qui n'aime personne ne s'éprenne que de lui-même, ne s'éprenne que de lui-même. Que celui qui n'aime personne ne s'éprenne que de lui-même, ne s'éprenne que de lui-même.
Alors Noémie, peux-tu nous parler, peut-être, donc tu nous as un peu expliqué la pièce « J'entends que t'entends ». Nous avons reçu, nous, Jean-François Vraud, il y a quelques mois, il y a quelques années maintenant, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Mais peut-être tu peux nous rafraîchir la mémoire et nous dire qui il est exactement.
Alors Jean-François, donc c'est un violoniste de musique trad et conteur.
Ah oui.
Voilà, donc bah voilà, c'est une des figures de la musique trad en France. Il a récolté toute sa vie des musiques traditionnelles, les a incubées et les a transmis dans ses solos, dans ses groupes. Il a fait un groupe qui a marqué les esprits qui s'appelle La Soustraction des Fleurs avec Frédéric Aurier et Sylvain Lemaître. Là, ils fêtent leurs 20 ans cette année. Ouais. Donc, ils ont fait des disques qui, moi, m'ont subjugué, vraiment marqué profondément. Donc, un travail vraiment entre la musique trad et la musique contemporaine. Et le conte et le fait de raconter des histoires et raconter les histoires de nos foyers, quoi, de nos chaumières, comme on pourrait dire. Moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par le biais de Frédéric Aurier et de Julien, mon frère. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis rapprochée de lui pour travailler. Vraiment, j'ai fait plusieurs séances de travail avec lui sur le lien entre la voix et le violoncelle. Voilà, et il m'a beaucoup appris là-dessus. Puis, en fait... petit à petit, ça lui a inspiré l'envie d'écrire. Donc, il m'a écrit une première pièce qui s'appelle Nono Cello et moi, donc qui était un cadeau, hein, et que j'ai beaucoup joué en concert. Une petite pièce de 4-5 minutes où je raconte un peu ma solitude de violoncelliste, et puis je fais des digressions un petit peu farfelues, et j'aime beaucoup jouer cette pièce dans mes solos. Et puis, bah voilà, c'est tout naturellement que je l'ai sollicité pour le disque.
Ouais. Alors, on va revenir sur la voix, mais je voulais savoir avant. Donc, tu nous as dit qu'il y a un propos narratif dans la pièce. Et est-ce que j'ai bien compris les pièces, les différentes parties de la pièce de Jean-François Vrault sont séparées dans le disque?
Oui, c'est ce qu'on a appelé des chapitres.
Ah oui.
Et il y a 5 chapitres qui racontent le mythe de Écho et Narcisse. C'est ça, ouais. Et donc, tous ces chapitres sont séparés et superposés, intercalés entre les autres pièces.
Ah, c'est ça, d'accord. Oui, je n'étais pas sûr d'avoir compris. Mais est-ce que les chapitres sont en lien avec les pièces?
Donc, tout à fait. On a complètement travaillé l'ordre. Et Jean-François était présent au mix aussi. Et donc, on a fait un gros travail sur cet ordre. Et sur la fluidité de cet ordre.
Ah oui, d'accord. Je ne savais. Ah oui, d'accord. Alors, tu as parlé de ta voix. On entend ta voix de manière narrative, mm-hmm. mais tu chantes aussi. Mm-hmm. Et ça, c'est un travail supplémentaire. Je crois qu'il y a 5 ans, on avait déjà parlé du fait que tu chantais, que tu t'as. C'est encore en plus du violoncelle qui, mm-hmm. à mon avis, n'est déjà pas très facile. tu t'imposes encore une contrainte.
Oui, ça pourrait être celle-ci comme une autre. Bon, après, moi, le violoncelle, j'en joue depuis que j'ai 7 ans. Donc, je ne dis pas que c'est facile, loin de là. Mais par contre, c'est quand même familier.
Oui.
Et c'est quand même, du coup, très intéressant et stimulant d'ouvrir des nouveaux chantiers. Donc, pour moi, ça a été la voie, effectivement. En fait... la voix, ça m'est arrivé dessus grâce à François Saran, que j'ai rencontré il y a bien longtemps, qui écrit des pièces de théâtre musical, on pourrait dire, où la voix est présente. Et que moi, ça m'a énormément plu. Et depuis ce moment-là, j'ai travaillé la voix, oui.
Ah oui, c'est ça.
Ouais, j'ai travaillé avec une professeure que j'adore, qui s'appelle Mireille Antoine, à Lyon. Et puis, comme je le disais, avec Jean-François aussi.
D'accord. Ouais. Alors, tu les as un peu cités, mais peut-être on peut redire qui sont tes collaborateurs pour ce disque. Où et par qui a-t-il été enregistré, mixé, sur quel label il sort, enfin,
tout. Oui, bien sûr. Vois. Alors, en fait, c'est pour monter ce disque, pour le fabriquer, pour avoir des soutiens, etc. Il y a plusieurs partenaires. Il y a le Festival de Chaillol, donc qui est un espace culturel dirigé par Michael Dian. Donc, très, très beau festival qui se passe dans les Alpes du Sud, dans le Champsaur. depuis très longtemps, je pense au bien 20 ans. Et festival où j'ai souvent joué, j'ai eu la chance de souvent jouer, donc c'est vraiment un festival qui me plaît beaucoup, ce genre de festival où on démarre un concert avec une marche, voilà, on est vraiment en lien avec le paysage, et puis on finit une marche par effectivement l'écoute de partitions. La programmation est très éclectique et donc en lien avec son territoire. Et donc, quand j'ai parlé de ce disque à Michael Dian et de cette commande à Jean-François Vrault, il m'a dit que voilà, qu'il voulait soutenir le projet. Et dans les Alpes du Sud, il y a un studio qui s'appelle le studio Alice, qui est le studio de Pascal Perrault, très très bon ingénieur du son. Et donc c'est un magnifique lieu, une grange qu'il a totalement restaurée en studio. Et puis le troisième partenaire, c'est le label L'Empreinte Digitale, dont s'occupe Catherine Payon, grande défenseuse de la musique de création depuis toujours. Donc voilà, c'est ce triangle-là, l'espace culturel de Chaillol, le studio Alice et le label L'Empreinte Digitale qui m'ont aidé à fabriquer ce disque.
Un petit mot sur la très belle pochette.
Ah, ben merci Christophe. Là, c'est mon ami Alex Crestet qu'on peut féliciter. Donc, cette pochette, pour moi, était très importante. Et pour moi, j'avais besoin, dès la pochette, de raconter aux gens ce qui allait se passer. Mmh. Et il y a beaucoup de symboles dans cette pochette. Un des symboles, d'ailleurs, c'est de faire écho, encore une fois, à mon disque Britten. En fait, vous pourrez voir, en regardant les deux pochettes, qu'il y a pas mal de similitudes. Mais ça raconte d'autres choses aussi. Ça raconte les échos, ça raconte les reflets. Bref, ça raconte l'eau, ça raconte un tas de choses. Et c'est effectivement Alex Crestet que j'ai sollicité, qui a déjà fait des photos de moi, que j'aime beaucoup. Et il est metteur en scène, il est drag queen, il est très bon musicien et il est photographe. Et donc, il a œuvré encore une fois.
Ah ben, il a très bien œuvré. mais je propose qu'on écoute « J'entends que t'entends », chapitre 5 de Jean-François Vrault par Noémie Boutin.
Sauras-tu que faire du son qui va, qui vient? Sauras-tu que faire du son qui va, qui vient? Sauras-tu est-ce le mien ou le tien? Sauras-tu est-ce le mien ou le tien? Sauras-tu que faire du vent qui va, qui vient? Sauras-tu que faire du vent qui va, qui vient? Sauras-tu si il pleuvra demain? Sauras-tu si il pleuvra demain? À la mort de Narcisse, elle a tant maigri que ses os sont devenus de pierre. Il ne lui reste plus que sa voix qui hante certains lieux, qui résonne encore de sa présence. La montagne, les grottes, les forêts. Ici peut-être.
Sauras-tu que faire du son qui va, qui vient? Sauras-tu que faire du son qui va, qui vient? J'entends que tu m'entends. C'est t'entends quand t'entends. J'entends que tu m'entends. C'est
t'entends, quand t'entends.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs, radio-libertaire.com. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, et aujourd'hui nous recevons la violoncelliste Noémie Boutin pour son disque Ricoche. Alors Noémie, on vient d'entendre le chapitre 5 de J'entends que t'entends, de Jean-François Vraux. Alors, on connaît Jean-François Vraux, Frédéric Aurier, tu en as parlé, on connaît Quatuor Bella, La soustraction des fleurs. Oksana Omelchuk, désormais, on la connaît, grâce à toi. peut-être on connaît... Frédéric Patard ne nous est pas inconnu, mais peut-être tu peux nous en dire quelques mots, ainsi que de Misato Mochizuki.
Alors, Misato Mochizuki, je l'ai rencontré à la même occasion que Oksana. Hein, c'était dans ma recherche de compositrice pour La Rose des Vents, ce spectacle avec la bouillabaisse. Et Misato, donc, c'est une compositrice japonaise qui est très connue aujourd'hui en France. Donc elle navigue entre le Japon et Paris. Et on la voit maintenant dans toutes les grandes manifestations de musique contemporaine. Enfin, on la voit, on l'entend plutôt. Voilà, c'est une personne... Très riche, très profonde. À nouveau, la rencontre a été très belle autour de cette Rose des Vents, humainement, musicalement. Et j'ai énormément aimé la pièce qu'elle a écrite. Donc là, Misato a voulu retranscrire différentes formes de vent. Donc à travers le violoncelle. Donc cette pièce qui s'appelle Wedding Winds nous donne à entendre huit formes de vent. Voilà, des vents délicats, des vents turbulents, des vents violents, des rafales, des houles. Et pour moi, c'est vraiment une traversée, quoi, cette pièce.
Ça veut dire qu'il y a huit pièces différentes, enfin,
Oui, mais elles s'enchaînent. Mais voilà, c'est des matières sonores bien identifiées. Et puis Frédéric Patard, alors, c'est le plus ancien. Je le connais depuis le début de mes aventures. Aventureuse, c'est une des premières personnes à qui j'ai commandé une pièce. Donc Drink Me, là, qui est dans le disque, c'est une commande qui est un petit peu ancienne et qui date de 2013, si je ne me trompe pas. Et Frédéric Patard, j'en entendais beaucoup parler à l'époque. Je suis allée vers lui... en espérant qu'il réponde positivement. C'était le Festival des Musiques Démesurées qui m'avait soutenue pour cette commande-là. Et puis, moi, j'ai adoré cette personne. C'est un homme très, très, très sensible, qui a une plume en même temps très, très exigeante, en même temps qu'il va chercher dans des matières sonores vraiment reconnaissables parmi mille. Enfin, il nous fait rentrer dans des univers très très particuliers. Il est toujours, si je me trompe pas, en lien avec un soutien littéraire, c'est-à-dire qu'il part toujours d'un livre ou d'un poème pour écrire. Et parfois, comme dans le cas de Drink Me, les mots sont présents. Donc là, j'ai vraiment une partition de chant au-dessus de la partition de violoncelle. Et donc, il a utilisé une corde à tour pour mon violoncelle, c'est-à-dire un accord un peu différent des quatre cordes. Donc là, c'est La bémol, Ré, Sol et Sol très grave. Donc, ce qui fait que j'ai une octave en bas dans les graves. Et ce qui donne une couleur très étonnante, assez électrique. curieusement. Il y a vraiment parfois des petits moments de guitare électrique, quoi. Et au contraire, une voix plutôt dans les aigus, avec un poème anglais. Alors vraiment, c'est un univers assez surréaliste, quoi. Moi, la pièce s'appelle Drink Me et je pense tout le temps un petit peu à Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment assez magique comme pièce.
Alors, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais la plupart des pièces que tu interprètes dans ce disque sont des commandes, enfin des pièces qui ont été composées pour toi, à l'exception d'une, qui est celle de Kaya Sarriao.
Tout à fait.
Qui est la, donc, est-ce que tu peux nous parler de cette compositrice?
Oui, c'est une compositrice finlandaise qui est... maintenant, on peut en être sûr, une des plus grandes figures de notre siècle et qui malheureusement est décédée il y a peu de temps, 2023, un petit peu tôt. Ce qui est génial, c'est qu'elle a énormément gâté le violoncelle parce qu'elle a beaucoup écrit pour violoncelle, donc ça c'est la fête. Et les papillons là que j'ai enregistrés. On pourrait dire que c'est un tube maintenant. Ouais. Alors bon, un tube dans la musique contemporaine, ça reste à une petite échelle, mais en tout cas, ça reste un tube. Et c'est vraiment ces papillons, c'est une merveille, c'est un bijou en fait. C'est sept papillons, donc sept petites pièces qui font une ou deux minutes chacune et qui travaillent sur les battements d'ailes de papillon ou les métamorphoses du papillon ou le vol de l'animal. Ce qui est drôle, c'est avec ce gros instrument qu'est le violoncelle, avec ses grosses basses et puis ce gros, parfois, lyrisme qu'on a l'habitude d'entendre. Là, au contraire, on est vraiment sur un fil et sur quelque chose qui arrive et qui repart sans bruit, si je puis dire, dans une finesse incroyable, une délicatesse très belle. D'ailleurs, c'est un sacré défi de se lancer là-dedans. Et j'adore ces pièces. Et pour moi, c'était évident qu'elles en feraient partie. Je ne savais pas qu'elle ne serait plus de ce monde, évidemment, au moment où j'ai décidé que ce serait dans le programme. Alors aujourd'hui, évidemment, pour moi, c'est une grande émotion et une grande fierté de rendre hommage, quoi.
On écoute Papillon 2 de Kaya Sarriao, interprété par Noémie Boutin. Thank you. Alors voilà, nous venons d'écouter Papillon 2 de Kaya Saariao, enchaîné avec la suite pour violoncelle numéro 5 de Jean-Sébastien Bach.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler de cette gigue?
Oui. Alors, est-ce que je peux te demander, Christophe, de me rappeler le nom de l'interprète? Parce que...
Bien sûr, Paolo Pandolfo.
Voilà, Paolo Pandolfo. En fait, je t'ai envoyé cette interprétation de cette gigue de Bach parce que, les suites de Bach, ça a été enregistré combien de fois, on pourrait même pas le dire. Et puis, qu'est-ce qu'on choisit comme disque ou comme interprète pour les écouter temps en temps? Il y a 1000 possibilités, vraiment. Il y a 1000 interprétations. Quand on pense à Pablo Casals ou à ce qu'on vient d'entendre, on est dans deux mondes, quoi, vraiment.
D'accord, ouais.
Alors, et moi, quand j'ai découvert cette interprétation et cette interprète, j'ai vraiment adoré. Donc, déjà, c'est à la viole de gambe, ce qui est singulier, puisque c'est quand même écrit pour violoncelle, les suites de Bach. Et donc, il dit qu'il a décidé de les enregistrer à la viole de gambe parce que Bach a quand même fourni tout ce qu'il fallait pour que ce soit polyphonique, ces suites de Bach. Et du coup, l'interprétation qu'il en fait, est pleine d'improvisation, d'accords, etc. Et j'adore, ça apporte une dimension toute nouvelle à ses suites. Et donc, ça m'inspire beaucoup, moi, pour les jouer avec mon violoncelle moderne, qui est nettement plus limitée. C'est pour ça que je t'ai envoyé ça. Et... La cinquième suite de Bach, c'est une des suites que je joue dans le spectacle Sarabande.
Ah ben voilà, venons-en au spectacle Sarabande, qui aura lieu du 8 au 11 avril au Théâtre Sylvia Montfort, avec, je crois, un partenaire un peu inattendu.
Oui, alors Sarabande, c'est un spectacle qu'on tourne depuis 10 ans maintenant, donc ça, c'est extraordinaire. On l'a joué en France et dans le monde entier. Et, c'est un spectacle donc avec Jörg Müller, ce jongleur inouï. Jörg, il a marqué le monde du cirque et du jonglage par une création de ce qui s'appelle le mobile. Donc c'est des tubes, comme des tubes cloches, donc des tubes en acier. Qui, quand ils s'entrechoquent, font des notes de musique. Ouais. Et quand ils jonglent avec, créent une chorégraphie incroyable, où on ne sait plus où sont ces tubes, comment ils s'entremêlent, comment ils rentrent pas les uns dans les autres, comment ça se passe en cercle. Et quand on est autour, c'est vraiment une danse magnifique avec le corps de Jörg qui est plein de c'est quelqu'un d'extrêmement gracieux, délicat. Et donc, quand il danse avec ses tubes, c'est vraiment très, très beau. Moi, j'adore, j'ai l'impression qu'il danse avec des personnages ou des enfants. Enfin, c'est très, très, très beau, cette ronde-là. Mmh. Et donc, dans Sarabande, il s'en sert de ce mobile. Et en fait, c'est une sorte de triptyque, on pourrait dire. Il y a 3 parties. Moi, je joue 3 suites de Bach, la première, la troisième et la cinquième. Et à chaque fois, il utilise... un outil différent, un agrès différent.
Oui.
Parfois, c'est juste la flamme d'une bougie. Comme je le disais, parfois, c'est avec son mobile. Et puis aussi, parfois, c'est avec moi. C'est-à-dire que je suis sur une planche volante. Et donc, Jörg danse avec moi et me fait voler. Mmh. Et donc, c'est ce spectacle qu'on joue depuis... Depuis si longtemps maintenant, que j'adore, et qui là va jouer à Paris, donc c'est un grand événement, c'est une grande joie. On va faire 6 dates, et venez, parce que remplir 6 dates, c'est pas ça se fait pas tout seul. Donc voilà, je vous invite vraiment à nous retrouver.
Et bien dans quelques jours au Théâtre Sylvia Montfort. Est-ce qu'il y a un argument narratif dans le spectacle?
Pas du tout, c'est vraiment Quand on s'est rencontré avec Jörg, c'était pour, on avait une carte blanche pour un festival. Et donc, Jörg est arrivé avec ce prototype de planche volante. Je me suis dit qu'il était fou et que j'allais jamais y arriver. Enfin, parce que c'est quand même quelque chose de jouer en volant.
Ouais.
Et puis moi, je suis arrivée avec ces trois suites de Bach. Et en fait, on a vraiment... on ne s'est pas servi d'une narration. On s'est vraiment servi de nos... on pourrait dire de nos répertoires personnels. Et c'est vraiment la rencontre entre ces deux partitions qui se crée là. C'est comme un contrepoint, puisqu'on est dans Bach. C'est vraiment un contrepoint entre nous deux.
Ah oui. Mais alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Là, tu parlais d'un festival, mais comment vous...
Avant ça, c'est, ouais. Bah, j'en parlais en début d'émission. Ouais. C'est, voilà, j'ai la chance, depuis adolescente, d'être... au contact d'artistes divers et variés, par le biais de festivals pluridisciplinaires. Je pense aussi à l'ami Blaise Merlin, qui a beaucoup œuvré dans ce sens-là, notamment à l'époque de La Voix est libre au Bouffe du Nord, où on pouvait rencontrer Denis Charol, Vima Laponce, Mathurin Bolz, Le Quatuor Bella, et j'en passe et j'en passe. Et c'est à des occasions comme ça qu'on s'est rencontrés, jusqu'à ce qu'on puisse avoir cette carte blanche.
Alors, si je me souviens bien de l'émission d'il y a 5 ans, tu nous disais que tu n'improvisais pas, que ce n'était pas ton, ton truc. Est-ce que ça a changé? C'est toujours le cas?
Non, ça n'a pas changé. Certains te diraient que ce n'est pas vrai, parce que ça m'est arrivé parfois. J'ai beaucoup travaillé avec Sylvain Hélary et à son contact, j'ai beaucoup appris. Et puis avec d'autres musiciens, musiciennes. Mais, et puis notamment, évidemment, depuis quelques années avec Vincent Courtois, que je côtoie beaucoup.
Ouais.
Mais... tu disais tout à l'heure que voilà, jouer du violoncelle, c'était déjà pas facile. Et effectivement, maintenant, je travaille la voix, je commande des pièces, je m'occupe d'une compagnie. Et j'ai pas le temps que je voudrais avoir pour travailler l'impro. Donc, je dis que je ne fais pas d'impro.
D'accord. Alors, est-ce que Jörg Müller, lui, il improvise durant le spectacle?
Oui, oui.
En tant que
Alors, Jörg, il a quand même son parcours, que ce soit avec son mobile ou avec sa bougie. Il a sa chorégraphie, disons.
Ouais, ouais, ouais.
Mais
il a son langage, en tout cas,
il l'a créé de toute pièce. Oui.
D'accord. Et alors, il me semble que ce n'est pas la première fois que tu te confrontes à d'autres disciplines artistiques. Il me semble. Hein.
Tout à l'heure, je parlais de la bouillabaisse, par exemple.
Ah, oui.
La Rose des Vents, c'est la rencontre entre la musique et la cuisine. Et vraiment, j'ai plongé dedans. Hein. C'est-à-dire que la Rose des Vents, on finit le spectacle par la dégustation d'une bouillabaisse, donc il faut bien que la cuisine se fasse. Et pour que la cuisine se fasse, eh ben, c'est un sacré chantier. Il faut rentrer dans le monde de la cuisine, et on a donc appris ce que c'était que d'avoir des cuisines en backstage avec des gens qui font de la cuisine, du matériel pour ça. À chaque fois, c'est un partenariat avec un lycée hôtelier et des jeunes apprentis. Donc voilà, ça a été une vraie rencontre.
Ouais, ouais.
Quoi. Là, on est dans le bouillon, c'est le cas de le dire. Il y a le cirque avec Jörg. J'ai créé un spectacle aussi avec Pierre Meunier et Marguerite Borda de la compagnie La Belle Meunière. Donc là, c'était vraiment théâtre et musique.
Ouais,
un spectacle qui s'appelait Bachelor Quartet. Donc
je me souviens de ça. Oui, oui. Je pensais que tu allais me parler. J'étais étonné que tu me parles de cuisine avant de parler du théâtre.
Oui, oui. Ouais. Ouais. Donc oui, oui. Et puis récemment, par exemple, à août, ça c'est le spectacle qu'on a fabriqué, qui est né en septembre dernier. Et là, c'est la rencontre avec le théâtre, mais aussi avec l'espace public, par exemple.
On va en parler.
Ne nous pressons pas.
Ne nous pressons pas. Pour l'instant, je propose qu'on écoute. Enfin, c'est toi qui nous proposes d'ailleurs d'écouter Gabriel Fauré.
Oui.
Pourquoi Gabriel Fauré?
Écoute, j'ai pour faire cette playlist, tu m'as donné la contrainte de faire avec ce que j'avais en magasin,
ouais,
en stock. Et puis moi, j'ai pas grand chose en stock. Je suis vraiment pas très débrouillarde avec les ordinateurs et tout ça, et j'ai pas beaucoup de musique sur mon ordinateur. Alors du coup, j'ai fouillé tout ce que j'avais, et puis j'ai trouvé cette pièce de Gabrielle Fauré qui est très belle et charmante. Et puis surtout, là, elle a l'avantage d'être enregistrée avec mon frère Johan, qui est comédien, musicien. Et donc, c'était un moment très émouvant parce que c'était pour un projet à Lunéville, très drôle, de très étrange ville. À l'époque, j'étais associée au théâtre de Lunéville, et puis on se préparait à fabriquer une fausse visite de Lunéville avec Vincent Martin et Johan, mon frère. Et puis pour l'occasion, on a enregistré à la maison cette pièce de Gabrielle Fauré.
Eh ben très bien. Alors moi, de mon côté, je dois dire que je suis très très heureux de faire des émissions avec toi, Noémie, parce que justement, on écoute des choses qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, et ça, c'est super pour nous.
Et j'ajoute que d'ailleurs, elle est un petit peu raccourcie. C'est un extrait.
Oui, c'est un extrait.
C'est vraiment pour avoir juste une petite touche de Fauré.
Et en plus, j'aime beaucoup Gabrielle Fauré.
Ah bah oui, moi aussi.
On écoute La Berceuse.
Ouais.
Un homme de petite taille déclara.
Je donnerais presque n'importe quoi pour être juste un peu plus grand.
À peine eut-il fini sa phrase qu'une fée apparut devant lui.
Que veux-tu, petit homme ?
Mais l'homme de petite taille, pétrifié de peur, restait immobile sans rien dire.
Alors ?
Mais l'homme de petite taille ne pouvait pas parler, alors la fée disparut.
Cette fable et tu ne te sentiras pas très bien.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec aujourd'hui la violoncelliste Noémie Boutin. On a enchaîné Gabriel Fauré et François Sarran. Alors, tu nous en as dit quelques mots tout à l'heure. Mmh. Il y a 5 ans, on avait écouté Amitié, et là, on vient d'écouter Espoir. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, donc là, vous avez entendu Espoir avec Frédéric Horrier au violon. Donc, François Sarran, ça a été une rencontre décisive dans ma vie, puisque donc, j'ai rencontré à l'occasion d'un festival. On m'a proposé de jouer une pièce de lui, donc, qui s'appelait Amitié. Une petite pièce de 3 minutes avec donc voix et violoncelle qui raconte l'histoire de Bobok. Et c'est là que j'ai découvert que je pouvais utiliser la voix et le texte. Et ça a été génial. J'ai bien travaillé avec François cette pièce. Puis je lui ai commandé une autre pièce qui dure un quart d'heure, qui est très belle pour violoncelle et électronique. Et j'ai beaucoup parlé avec François du rapport au texte. Mmh. Et puis j'adore ces petites pièces-là. Il en a écrit une multitude de petites pièces comme ça, de petites scénettes, beaucoup sur des textes de Daniil Arms, un poète russe.
Ah, oui.
Voilà, qui parle beaucoup des enlèvements, de la dictature et des enlèvements comme ça, de gens qui disparaissent tout à coup, on ne sait pas trop pourquoi, ce qui s'est passé, on frappe à la porte et puis il n'y a plus personne. Mmh. Et avec cet humour noir décapant. Et donc, par exemple, cette petite pièce qu'on vient d'entendre, Espoir, avec cette fée, voilà, me fait hurler de rire et c'est très très agréable à jouer. Donc, ouais, moi c'était une grande rencontre.
Ah oui. Alors, une autre rencontre, c'est un compositeur que nous connaissons bien ici, qui était début janvier dans notre émission pour le concert du Nouvel An. Tu sais, on fait ça, nous, ici. Là.
Ah bah oui, c'est important.
Ah bah oui, tu parles. Donc, c'est Timothée Coste qui nous avait fait le plaisir, l'ami Timothée Coste, qui nous avait fait le plaisir de venir avec Fabien Gaston Rimbaud. Et je crois qu'il y a 5 ans, tu nous avais déjà parlé de Timothée. Comment l'as-tu rencontré ?
Ah ouais, tiens, déjà il y a 5 ans. Oui. Eh ben, Timothée, la première fois que je l'ai entendu, c'était à la Générale.
Ah oui.
Ouais, dans une grosse soirée où il y avait plein d'invités. Et puis d'un coup, il a débarqué avec son solo. Alors bon, j'ai pris une claque, comme on dit, de voir ce bonhomme-là avec sa trompette, sa bouche, ses grands pieds, son grand corps... Et ces sons-là qui sortaient de sa trompette et de sa console, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Enfin, comme traverser. Et puis après, on est devenus proches et on est devenus amis. C'est pendant le Covid. Décidément, il s'en est passé quand même des choses. Hein. Mmh. Pendant le Covid, il nous a appelés, mon compagnon et moi, donc mon compagnon qui est metteur en scène, Benjamin Grötzinger, et il nous a dit que là, c'est pas possible, là, on va pas pouvoir rester comme ça, enfermé chez nous, on peut même pas prendre les instruments, divertir les gens, faire quelque chose, quoi. Il faut qu'on fasse quelque chose et il faut qu'on joue en dehors des théâtres. Là, il faut, voilà, un peu, on peut plus rester dans le confort de nos salles, quand on voit cette déshumanisation et ce désert de ce qui se passe dehors pour les gens qui sont dehors, on ne peut pas continuer comme ça, inventons quelque chose. Donc, avec cette petite troupe, Thibaut Gomez au piano, Johan Boutin au chant et au texte, Benjamin Grötzinger à la mise en scène et à l'écriture, Timothée Coste à la composition et Simona Castria au saxophone, on est parti dans l'aventure qui s'appelle Out. Et donc, Out, c'est cette forme qu'on a réfléchi pour le dehors et pour les gens qui sont dehors.
On va approfondir tout ça, mais avant, il me semble important d'écouter un extrait donc de Out, composé par Timothée Coste, et ça s'appelle Aurélie. Thank you.
Ma mère, elle est venue ici, c'est pour travailler. Excuse-moi de dire ça, la merde des Français. Ils ont appelé ma mère pour lui dire de travailler, pour faire la merde des gens. Enfin, comment dire, elle s'occupait de la merde des gens. Nettoyer les toilettes, elle nettoyait les toilettes des gens, le corps des gens, tu vois.
Et là, je vais travailler dans le bâtiment. Deux chambres. Je vais tapisser deux chambres. Et après, si tout se passe bien, si j'arrive, on va dire, à assumer ce travail, j'aurai un petit... Enfin, je demande pas un logement, mais une petite chambre. Une petite chambre. Et après, quand j'aurai une situation correcte, je dirai, ah voilà, même si c'est une petite chambre, j'ai une adresse. C'est à moi. Voilà. Je revis. Tu dors pas dehors. Tu dors pas. Comment tu veux travailler? Je l'ai quand même fait 18 mois, mais à un moment, tu tombes. Pourquoi vous avez dormi là? M'a dit ma hiérarchie. Vous rentrez chez vous au chaud. Moi, je suis dehors. La force, c'est comme une ampoule. T'as le filament, tu tires, et il y a un moment, tu dors plus. Je dormais quoi? 2 heures par jour, je travaillais 14 heures. Quand je rentrais, j'étais fatigué, fallait accomplir les écoles, faire la réunion. Une fois, j'ai même levé les enfants et je m'en veux à 4h du matin. J'ai cru que c'était 7h30 du matin pour les emmener à l'école. Et j'ai dit, dépêchez-vous, vous allez être en retard. Et j'ai dit à ma grande, dépêche-toi, va emmener tes petits frères à l'école parce que vous allez être punis à cause de moi. Et ils sont partis. Et après, je suis remonté parce que c'était une maison en étage. Et je dis, mais c'est pas possible, j'hallucine, 4h du matin. J'étais en chemise de nuit, un pull par-dessus, un petit peu de chausson parce que j'avais même pas pensé à mettre des baskets. J'ai même pas fermé la porte de la maison, j'ai couru pour aller les chercher. Où est-ce qu'ils étaient? Devant l'école. Et ma fille qui revient, qui dit, maman, pardon, mais l'école est fermée. Et puis il fait nuit. Je commençais à perdre la tête. Je suis allé trop dans le travail. Voilà, plein de trucs. Mais je sais ce que je veux. J'y arriverai.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec aujourd'hui la violoncelliste Noémie Boutin. Alors, on vient d'écouter un extrait du spectacle. Tu me diras, tu me rectifieras si ce n'est pas le terme adéquat. C'est ça, hein?
Oui.
Out, composé par Timothée Coste.
Oui.
Alors, Quel est le concept, hein, tout simplement? Quel est le concept de ce spectacle?
Ben, donc, comme je disais, voilà, il est venu de l'envie vitale, hein, on va dire, de ce petit groupe-là d'amis, de jouer dehors, donc en dehors des salles de concert, en dehors des salles de spectacle, pour que nos instruments sonnent dehors pour tous et pour toutes. Mais aussi avec une adresse particulière aux personnes qui sont à la rue. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Et alors, je me suis demandé, en écoutant, est-ce qu'il y a, en écoutant les extraits que tu m'as envoyés, est-ce qu'il y a des bandes enregistrées ou des voix originales de gens à la rue, justement?
Oui.
Ah oui, c'est ça.
En fait, il y a... Oui, il y a... On a travaillé 4 ans sur ce spectacle avant qu'il soit créé, beaucoup au Mans. Et donc, on a rencontré une grande partie du réseau solidaire du Mans. Et ça a été une aventure formidable, même si très dure parfois. Et en fait, on a pu rencontrer des travailleurs sociaux, des SDF, des grands précaires, des hommes, des femmes. Et puis, parfois, on a pu les interviewer, les enregistrer. Donc, oui, dans le spectacle, il y a des voix de femmes, notamment.
Oui.
Alors, les voix de femmes, d'ailleurs, qu'on entend dans le spectacle, on les a rencontrées à Grenoble, dans une association qui s'appelle le Local des Femmes. Mais là, par exemple, ce qu'on vient d'entendre, Aurélie, c'est une femme sans-abri qu'on a rencontrée au Mans. Et ce qu'on entend, c'est Joanne qui parle, mais c'est mot pour mot les mots d'Aurélie qui ont été retranscrits.
Ah, c'est ça que je me demandais, en fait.
Oui.
Ouais. Et alors, dans quel... tu dis le jouer dans la rue, mais dans quel cadre
En fait, on joue dans la rue, donc c'est en lien avec les théâtres, hein, qui diffusent notre spectacle, et puis on fait des repérages en amont. On a besoin d'endroits quand même un petit peu protégés, comme une placette, voilà. Parce que donc, les instruments, c'est petit piano Klein, saxophone, violoncelle. On est amplifié, bien sûr, mais bon, on ne fait pas le poids face aux voitures et tout ça. On n'est pas non plus une batucada, quoi, loin de là. Et en plus, la musique de Timothée, elle n'a pas fait dans la... elle a fait dans la dentelle, justement. C'est-à-dire que Timothée a vraiment choisi de donner à entendre de la musique de chambre, en fait, vraiment. Donc, on a besoin d'un environnement un petit peu protégé du brouhaha d'une ville, tout en jouant en pleine ville. Puisque, évidemment, le but, c'est que ce soit, encore une fois, accessible à tout le monde.
Ouais. Alors, quand tu dis accessible à tout le monde, c'est financièrement?
Alors déjà, bien sûr, c'est un spectacle gratuit, bien sûr. Mais c'est aussi que les passants, les passantes peuvent se poser là. Et en fait, le spectacle démarre avec une exploration sonore de l'environnement. Ouais. Donc nous, on se balade ici et là. Moi, je me balade avec mon violoncelle. Enfin, on est tous en exploration. Mmh. Et puis du coup, ça nous permet d'haranguer un peu les gens. Et puis d'autres sont au courant par la communication des théâtres.
Ouais.
Donc voilà, c'est comme ça que le public se construit, quoi. Comme un spectacle de rue, en fait.
Oui, c'est ça, en fait.
Oui, oui, oui.
Quelle est la réception des passants, en fait? Est-ce que tu as des exemples, des anecdotes, des choses?
Ben, les anecdotes qui sont pour moi... Ce spectacle est tout frais, hein, donc les anecdotes qui sont pour moi les plus importantes, c'est les retours des personnes sans-abri, parce que pendant 4 ans, on a eu très peur d'être au mauvais endroit avec notre spectacle et notre propos. Bah, disons que on avait l'auteur, Benjamin, et évidemment, était pétrifié de peur de parler de choses qui seraient malvenues sur la rue, surtout pas parler à la place, surtout pas être dans un fantasme, tu vois, mal placé sur les fameux clochards célestes, tu vois.
Oui, d'accord.
C'est, tu vois, de pas être dans une poésie qui n'a qui n'a rien à faire dans cette horreur, quoi, qui est d'être exclu de la société pour des raisons souvent débiles. Débiles. Ces fameuses cases, quoi, et quand on n'est pas dans la case, et ben c'est terminé, quoi, c'est la chute. Donc ça faisait peur à Timothée, ça faisait peur à Benjamin, ça faisait peur à l'équipe. On voulait surtout pas être au mauvais endroit. Et puis ben donc les anecdotes que je peux dire, c'est pour moi c'était des moments très 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 forts de pouvoir jouer devant un public dont une vingtaine ou une trentaine de sans-abri, avec les canettes, les chiens, etc. Ouais. Et de pouvoir parler longuement, après les spectacles, avec eux, sur ce qu'ils vivent, ou ce qu'elles vivent, et nous dire qu'ils étaient vraiment bien contents qu'on en parle, notamment les femmes. Moi, il y a une jeune fan qui est venue me dire c'est quand même bien d'en parler, parce que les femmes sans abri, c'est vraiment un sujet très très caché, hein.
Très dur.
Très très dur.
Alors, est-ce que de manière générale, tu as des préoccupations sociales ou sociétales qui interagissent avec ta manière d'exercer ton métier de musicienne ?
Bah là, je crois qu'on est en plein dedans. Hein, quand on parle de Aout, puisque c'est ma compagnie qui porte ce spectacle, ça a été le moteur. Hein, c'est le effectivement, on est. Là, on est dans le social jusqu'au cou. Et je pense que c'est absolument vital, nécessaire, indispensable d'assumer que la musique est un outil pour le soin, pour le social, pour l'éducation, pour l'environnement, pour le féminisme. En fait, il y a la musique permet d'aller sur tous ces terrains-là, parce que finalement, vu qu'il n'y a pas de mots, c'est vraiment un vecteur, un médium que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que ce soit avec du Bach, que ce soit avec de la pop, que ce soit avec de l'électro, enfin, c'est quand même un moyen de communication, un outil de rencontre qui est formidable. Et qui peut vraiment tellement être bénéfique, notamment pour les plus fragiles. Oui, bien sûr que ça fait lien, bien sûr que ça fait sens d'aller dans le domaine du social ou dans d'autres domaines. Enfin, la musique, elle peut être partout. Je dis pas qu'il faut l'imposer. Mais si elle est bienvenue à tous ces endroits-là, faut y aller, quoi.
Eh ben super, merci beaucoup pour ces paroles, Noémie. Je propose qu'on écoute un deuxième extrait du spectacle Out dont tu viens de nous parler, qui s'intitule Sagesse de pavé.
Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas bien, qu'on rejette. C'est un peu comme la coiffure, on enlève les pointes sont pas bien, c'est pour ça que les cheveux ne poussent pas bien. Donc je considère que pour moi, enlever les pointes, c'est out, jeter à la poubelle, parce qu'elles sont pas bien. Maintenant, ce que je vois, Kim, c'est qui? Tu as dit bien In. Voilà, ce que je vois In, c'est quand je finis de coiffer et que j'ai fait une très belle prestation, que je vois ça In. Voilà, pour moi c'est ça. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire. Parce que je suis coiffeuse.
Sagesse de pavé. Celle ne sait secret. C'est le psy de la rue qui toujours écoute. les cris des creux des corps. Creuse la pierre, creuse la roche, gorge sèche au premier âge. Creuse la pierre, creuse la roche, gorge sèche au premier âge.
Liberté à la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres va bientôt s'achever. Nous recevions aujourd'hui Noémie Boutin. Alors Noémie, quelles sont tes prochaines idées de création? As-tu des nouvelles collaborations à nous annoncer?
on a quand même parlé de choses très actuelles. Donc avec Aout et Ricoche, c'est vraiment encore tout à fait fumant et en plein épanouissement. La prochaine création, je suis vraiment dans les prémices. Voilà, c'est le prochain spectacle de la compagnie qui est en cours, et ce sera un seul en scène, un petit peu tiré de ma propre histoire, de mon rapport avec le violoncelle, et je voudrais beaucoup parler de l'enfance, en fait, de l'enfant. Comme vous savez, la musique, ça se commence très tôt, comme le sport ou des disciplines comme ça. Et du coup, j'aimerais parler de cette période de l'enfance qui est un petit peu particulière quand il y a autant d'adultes qui attendent des choses de cet enfant. Ah oui. Et puis en même temps, de la force que ça peut lui donner aussi d'avoir un lien avec un instrument ou avec un outil d'expression. Et qu'est-ce que ça peut, dans cette solitude, générer comme évasion, comme imaginaire, comme puissance. Donc voilà, ça c'est je suis vraiment dans les débuts de ce travail là et puis une autre collaboration qui est très importante et pérenne, c'est avec la pianiste Jeanne Bleuze, avec laquelle je fais un duo depuis quelques années. Et on a un programme qui s'appelle Fantaisie Populaire, et là on est vraiment sur du concert et du répertoire classique, mais voilà, c'est un duo auquel je tiens beaucoup.
Super. Alors, quelles sont les dates de concert où on va pouvoir venir te voir, Noémie?
Oui, alors tu en parlais tout à l'heure, donc gros événement à venir tout bientôt, c'est Sarabande. Au théâtre Montfort, donc à Paris, du 8 au 12 avril. Venez nombreux. Et puis ensuite, je vais être en solo à Rezé, les 26-27 avril, donc tout près de Nantes. On va rejouer Sarabande à Troyes le 6 mai. Ensuite, donc, énorme événement, c'est la sortie du disque Ricoche à la MC de Grenoble le 15 mai. Et puis, s'en suivra deux dates une à Lyon à l'Opéra Underground le 5 juin et une dans notre cher atelier du plateau le 6 juin. Donc voilà, ça c'est les trois dates de la sortie du disque, Grenoble, Lyon et Paris.
Mmh. Et Out ?
Ah, et Out, bien sûr, Out, on le joue les 18, 19 et 20 juin, le 18 à Montmélian, 19 et 20 à Chambéry. Ah, donc effectivement, pour les amis savoyards, ouais, c'est, et donc ça joue dehors et les lieux sont indiqués sur la communication de l'espace Malraux.
Très bien. Alors Noémie, on va se quitter avec un des mouvements de la sonate de Zoltán Kodály. Mm-hmm. Il y a 5 ans, tu nous avais parlé de l'histoire du violoncelle, avec du violoncelle solo, mm-hmm. avec Bach mm-hmm. et Britten. Mm-hmm. Et entre les deux, il y avait Kodály. Tu mm-hmm. nous avais expliqué ça. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette sonate ?
Mm-hmm. Oh bah, c'est une pièce phénoménale par sa virtuosité déjà. C'est vraiment, comment on dit, enfin bon, bref, c'est l'enfer, quoi.
Ouais, c'est
quand on s'attaque à ça, c'est...
C'est compliqué, quoi.
C'est compliqué, ouais, c'est, ouais. C'est comme on dit l'Everest et tout ça, là, c'est ouais, vraiment épique. Et en même temps, c'est très motivant parce que ce qu'il a sorti du violoncelle, là, c'est exceptionnel, vraiment... On traverse des paysages. Il y a beaucoup d'inspiration de musique trad. Hein, on le sent vraiment de la musique de son pays, de la Hongrie. Ouais. Kodály, un peu comme Bartók, voilà, s'inspirait beaucoup de la musique de son pays. Et donc voilà, il y a de la danse, il y a de la fête. Il y a des fois, on a l'impression de traverser des steppes. Des déserts, c'est incroyable. C'est une sonate qui fait 30 minutes et c'est vraiment un voyage gigantesque. Et puis, j'ai décidé, toujours à cette fameuse période du Covid, de m'y attaquer. Et donc, ça a été génial. Et on a, avec quelques amis, Clément Lemaître au son, Benoît Martin à la vidéo, on a décidé de faire un clip. Parce qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, une pièce pareille, il faut... Enfin, on avait vraiment envie de raconter une histoire avec des images. Donc on est parti dans un petit bled de la Drôme, Montclar, où il y a une toute petite église. Et là, on a fait un clip autour de ce mouvement de Kodály. Et donc, ce que je te disais, c'est que, en même temps, c'est un souvenir très fort pour moi. Et j'adore le clip qui est trouvable sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, moi, pendant le Covid, contrairement à d'autres, j'ai pas du tout travaillé mon violoncelle. J'ai fait d'autres choses. Et j'ai passé du temps avec mon fils. Je suis partie dans une. J'ai pu partir loin de Lyon, enfin bref. Et quand j'ai dû reprendre mon violoncelle pour jouer la pièce de Kodály, c'était pas simple, quoi. Les doigts, ils marchaient plus très, très, très bien. Et donc, cet enregistrement, pour moi, il me rappelle toute cette fragilité-là, de cette période-là, qui était une fragilité à plein de niveaux, mais notamment au niveau des doigts.
Ah, c'est marrant.
Pour une pièce aussi difficile, du coup, c'est pas anodin.
Eh bien, on écoute pour terminer un extrait de la sonate de Zoltán Kodály. Merci beaucoup, Noémie.
Merci beaucoup, Christophe.
Eh ben, et puis à bientôt, j'espère.
Bah oui, très bientôt. Peut-être dans 5 ans.
Oh, peut-être, oh, peut-être même avant. À bientôt, merci beaucoup.
Merci.
Allez, salut.
Thank you.